Julien, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu nous fais le plaisir de nous laisser partager ce phone coaching dont tu sais qu'il est enregistré.
Oui.
Et tu acceptes qu'il soit diffusé sur Spike Séduction.
Oui, j'accepte.
Et nous t'en remercions. Alors, nous pourrions répéter toute l'histoire, les faits, les événements qui sont dans le courrier que tu m'as fait. On ne va pas le faire. Donc les auditeurs, je vous renvoie donc au courrier très détaillé de Sébastien qui nous permettra de comprendre un petit peu ce qui nous amène à l'analyse que je vais faire maintenant. En gros, je résume, tu me dis si je me trompe. Tu es dans une relation depuis un an et demi, relation qui a relativement rapidement été exclusive.
Oui.
Donc ce qui veut dire que vous êtes passé très rapidement par cette phase de négociation d'exclusivité dont je parle et qu'il ne faut jamais oublier. Tu es dans une relation avec une personne, avec une femme, une jeune femme de 27 ans comme toi, qui à trois reprises et de façon ce que tu appelles out of the blue, c'est-à-dire sans aucune raison apparente, sur l'oreiller, avant ou après le plaisir, te parle d'adultère, de relations extra-conjugales, d'infidélité, d'aller voir ailleurs. C'est ça ?
Oui, c'est bon ça.
Et elle t'en parle, non pas comme on pourrait s'y attendre, c'est-à-dire en te blâmant, en te menaçant ou en cherchant à te faire comprendre que c'est en train de lui arriver et qu'il faudrait l'en excuser, mais elle t'en parle comme si elle t'en donnait la liberté, voire t'y encourager.
Ouais.
Et ça te perturbe, ça te stresse, ça t'angoisse, tu as l'impression d'être assis sur une bombe à retardement, et donc tu sollicites ce phone coaching.
Tout à fait.
Est-ce que avant que je donne mon hypothèse, avant que je donne ma solution, même si ce n'est pas une solution parfaite, ce ne sont que des hypothèses, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres éléments sur cette personne, son caractère, ou je ne sais pas, sa religion ou autre, que nos auditeurs devraient connaître pour leur permettre un petit peu de comprendre pourquoi je m'oriente vers cette réponse qui va être très surprenante, paradoxale et qui n'est pas la réponse qu'on attend et qui serait logique?
Voyons, dans l'email, j'ai dit l'essentiel. C'est quelqu'un qui a investi beaucoup, qui a beaucoup investi dans la relation. Elle a une vision à long terme, une vision assez, assez traditionnelle en fait de la relation, avec acquérir plus de confort matériel, puis faire des enfants, et après, une fois que les enfants sont faits, de rester pour les enfants. Ça, c'est quelque chose que j'avais oublié.
Alors, quand tu parles d'investissement, on est d'accord que c'est pas au sens symbolique, métaphysique, très compliqué, c'est au sens le plus matériel, le plus concret du terme.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire que c'est une personne qui a un rapport à l'argent où elle réfléchit beaucoup avant de dépenser, elle réfléchit beaucoup avant de s'engager, votre appartement a été le fruit d'une longue négociation, tous les achats sont le fruit d'une longue réflexion... On n'est pas dans le cas d'une flambeuse ou d'une jouisseuse avec la réflexion qui vient après. On est dans le cas d'une personne calculatrice, c'est un peu connoté, mais disons qui investit with caution, comme on dirait en anglais, quoi, avec attention, avec réflexion.
Exactement.
Alors, tu nous dis également que des histoires d'oubli de pilules malencontreuses sont arrivées récemment. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus avant que je livre mon idée, mon analyse sur ce qui est en train de se passer ?
Oui. Pour la dernière fois où elle m'en a parlé, elle a eu des règles anormales. Elle a eu deux oublis de pilules.
Qui étaient bien sûr après l'emménagement ensemble.
Qui était après l'emménagement, en effet.
Donc elle a soudain perdu la mémoire avec les cartons, ça doit être la poussière.
Non, elle l'a toujours à côté du lit. Elle a toujours ses pilules à côté du lit.
Non, c'était une blague.
Ok.
Ok. Ma dernière question est un peu simple, même si je le sais parce qu'on en a parlé un petit peu avant. Qu'est-ce que tu ressens pour elle?
J'ai pas eu de violent désir en particulier pour elle. Je veux dire, c'est quelqu'un qui me complète. J'aime beaucoup, elle a des qualités qui me manquent. Et pour ça, notre couple fonctionne vraiment à merveille. Mais voilà, je trouve qu'elle est plutôt jolie, sans m'exciter particulièrement.
Fais attention, tu confonds amour et désir, là.
Ah oui.
Ça n'a rien à voir. Tu peux désirer une personne qui t'exècre, qui t'insupporte, que tu méprises, que tu méprises le plus profond de tes tripes. Tu peux la désirer quand même. Et inversement, tu peux aimer, adorer, vénérer une personne sans avoir une brutale montée de sève et de chair pour elle. Deux choses totalement différentes.
Ouais, non, je l'aime, mais c'est pas un amour passion.
Bon. Alors, écoute, on va pas, on va dire, répéter les faits. En plus, on a eu cette petite conversation entre nous avant qui m'a permis dont j'ai malheureusement foiré l'enregistrement, mais qui m'a permis d'en savoir un peu plus. Voilà mon idée. Mon idée, c'est que pour la première fois, pour une des premières fois sur Spike Séduction, on est dans un phone coaching sans séduction. Vous êtes dans une relation, vous êtes dans une histoire d'amour sans amour. Vous êtes dans une relation qui ne se déroule pas qui se déroule en 2013, on va dire matériellement, mais qui, sur le plan du concept, du déroulement, des enjeux, aurait pu se dérouler en 1913. C'est-à-dire que vous êtes dans une néo-relation de raison, où vous avez des intérêts communs à être ensemble. Et ces intérêts communs, une fois n'est pas coutume, ne sont ni le désir, l'attraction, le sentiment amoureux, mais c'est qu'elle t'a choisi. Je crois d'ailleurs qu'elle a prononcé ces mots.
Oui.
Elle t'a choisi comme un cheval de course. Enfin, plutôt comme un poulain. Tu es un poulain. Tu as un CV, un pédigré prometteur. Tu as des résultats à tes premières courses de trot, d'obstacles et de galop prometteurs. Tu es un investissement. Dans mon livre « L'homme idéal », je dis souvent « Vous êtes un paquet de cornflakes », rapport à l'apparence, rapport au branding, au marketing, au packaging. Là, on n'est absolument pas sur ces critères-là du tout. Est-ce qu'elle te parle souvent de ton apparence, de ton physique, de ta beauté, de ce genre de choses-là ?
Pas particulièrement.
Non, parce que ce n'est pas du tout ce qui est en jeu. Tu as été choisi, tu es toujours choisi comme un investissement en vue de gagner des courses. En échange de cet investissement en vue de gagner des courses, tu obtiens un certain nombre de qualités qui s'appellent le support, enfin au sens anglo-saxon, donc on va dire le comment on pourrait traduire le support, le comment ? C'est difficile à traduire.
Ouais.
Tu es, on va dire, pas managé, mais tu es coaché, tu es encouragé. Tu es soutenu, voilà, tu es soutenu. Tu es soutenu par une personne qui est dans une relation de soumission, dévotion, abnégation, admiration, très unique, paradoxale et rare, puisqu'on sort du modèle du couple traditionnel du 21e siècle basé sur l'amour-passion. Comme tu l'as dit, il n'y a pas de passion.
Ouais.
Moi, je pense qu'il n'y a pas d'amour. Je pense qu'il y a des... Je pense qu'il y a une conjonction d'intérêts absolument parfaite et que cette conjonction d'intérêts, on va dire, est totalement satisfaisante pour vous à 27 ans. Par contre, j'ai besoin de t'ouvrir les yeux sur ce vers quoi elle va t'entraîner. Je pense que cet oubli de pilule malencontreux, que selon toi, n'est pas du tout malencontreux. Pourquoi ? Parce qu'un enfant est le plus grand des investissements. Un enfant est la suite logique des investissements que vous faites ensemble. Je renvoie pour ça à la lecture de ton courrier. Cet oubli de pilule, si tu veux, est peut-être pas désiré par son cerveau, mais est désiré par, à un moment, tout son corps, comme la confirmation de votre engagement ensemble. Ce cette partie de ton message, donc cette partie sur la grossesse potentielle, me paraît beaucoup plus importante, paradoxalement, que ce pourquoi tu es venu me voir au début, enfin, pourquoi tu m'as contacté au début, qui sont ces trois évocations d'infidélité. En temps normal, ça pue du boudin, ces évocations-là. En temps normal, une personne qui d'elle-même évoque le sujet, tu peux quasiment être sûr que c'est un indice monumental de faute il y a ou faute il y aura. Dans ton cas, et encore une fois dans cette conversation précédente, j'ai creusé les éventuelles raisons qu'elle aurait de t'accuser d'infidélité ou de chercher une infidélité. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, c'est d'aller dîner ou fréquenter une fois une bonne amie tous les 2, 3 ou 4 mois. On est d'accord ?
Ouais, on est d'accord, ouais.
Eh bien, ce n'est quand même pas, je veux dire, même pour une fille complètement insécure, elle a l'intelligence suffisante et la rationalité suffisante pour savoir qu'une relation adultère, on ne voit pas la personne une fois tous les 3 ou 4 mois. Ça n'a pas de sens.
Ouais.
Donc, ces signaux d'alerte ne sont pas des signaux d'alerte. Ce ne sont pas des red flags, ce ne sont même pas des yellow flags. Ce sont des avenants au contrat. La question intéressante à se poser, c'est pourquoi fait-elle des avenants au contrat ? Vous avez signé un contrat d'exclusivité ensemble il y a 1 an et 2 mois. Tu te rappelles ce que j'ai appelé la négociation ?
Oui.
Donc la question, c'est pas est-ce qu'elle me trompe, puisque je sens dur comme fer que c'est non. La question est pourquoi rajoute-t-elle des avenants au contrat ? Si personne n'est totalement philanthrope, désintéressé ou totalement altruiste. Si elle rajoute des avenants au contrat, c'est qu'en réalité, elle a totalement conscience de ce que le contrat va peser sur toi. Et elle sait qu'elle va te demander une relation tellement exclusive et tellement, on va dire, dénuée de l'amour-passion et dénuée même de cette fameuse période de 3 ans où tout est un peu magique au début. Tu sais ce que... cette espèce de période de grâce, cette période de désir sans fin, cette période, tu vois, cette période au début qui serait, ouais, entre guillemets, normale.
Elle a existé quand même, mais seulement les premiers mois.
Ouais, c'est très court, hein. Normalement, c'est au moins 2-3 ans. Hein. Elle sait que le contrat va tellement être en ta défaveur à la fin qu'elle y rajoute des avenants. Elle te rajoute des soupapes de sécurité. C'est-à-dire qu'elle t'offre ce qu'un mec, on va dire... un peu bêta, un peu borné, un peu normal, prendrait pour, on va dire, une espèce de... les clés du paradis. C'est-à-dire, vas-y, fais ce que tu veux ailleurs, ça me dérange pas, on reste ensemble. En fait, ce n'est pas les clés du paradis. C'est les clés d'une très très confortable prison. C'est-à-dire que c'est la soupape de sécurité, mais t'as l'élastique derrière qui va te ramener. Allô ?
Oui.
Donc voilà mon début d'analyse, mon milieu d'analyse même. Ces signes avant-coureurs ne sont pas des signes avant-coureurs, ce ne sont même pas des signaux d'alerte, ce sont des avenants à un contrat qui va être... tellement traditionnel et tellement basé sur une espèce de pari sur ta réussite et ton ambition que je ne sais pas si tu en as idée. Voilà. Là, tu as la soupape de liberté, donc qui est un petit peu comme ça surprenante, difficile à gérer, et voire excitante, voire érotisante. Mais en réalité, tu as une personne qui, en échange, t'offre sa vie, mais te demande la tienne. C'est-à-dire, comme une union traditionnelle du début du XXe siècle, où on se mettait ensemble par famille pour réunir des lots de terre en commun, etc.
Ouais. D'ailleurs, elle avait déjà évoqué le fait qu'une fois qu'on a des enfants, il faut au moins rester le temps que les enfants grandissent.
Voilà. Donc là, tu es en train de signer un bail pour un appartement qui n'est pas un bail de 1 an ou 3 ans, comme on fait en France. Tu es en train de signer un bail pour une maison de 18 ans. Cette personne est en train de te demander c'est tes 20 prochaines années. Parce qu'elle parie sur ton côté. Tu es doctorant, donc tu seras bientôt docteur. Donc tu es PhD, tu es un thésard, tu es un entrepreneur. Donc les critères qui l'ont allumé, c'est un petit peu les mêmes critères qui allument toutes ces nanas qui vont aller draguer au bal de fin d'année à Polytechnique. C'est-à-dire que tu as un tas de nanas qui vont au bal de fin d'année à Polytechnique gesticuler du cul devant des garçons qui sont les mêmes garçons dont elles se moquaient à 12, 13 ou 14 ans quand c'était des geeks et des intellos du premier rang. Et c'est un des paradoxes féminins intéressants qui m'a enclin, qui m'a poussé, qui m'a encouragé à te demander la permission de diffuser ce phone coaching, c'est qu'on est sur des modes, on est sur des thèmes d'attraction, des modes d'attraction totalement différents de ce qu'on voit d'habitude sur Spike Séduction. On est sur un néo-mariage de raison. On est sur une union, on va dire, complémentaire de deux personnes qui ne sont pas des amants, mais qui sont des partenaires, des conjoints, des coéquipiers. Et en gros, la question qui doit attirer ton attention n'est pas « est-ce qu'elle me trompe ?», c'est « suis-je d'accord pour faire de cette personne mon unique relation dans les 20 ans à venir ?» Est-ce que tu sais répondre à cette question pour l'instant ?
Non, pas pour l'instant.
Eh bien, c'est cette question qui doit t'occuper, à laquelle je n'ai évidemment pas la réponse pour toi, et heureusement, Dieu m'en garde, c'est cette raison qui doit t'occuper, c'est pas cette discussion sur l'adultère. Et cette discussion sur l'adultère doit t'alerter, et d'ailleurs t'as alerté, sinon tu m'aurais pas écrit, mais elle doit t'alerter non pas comme « mon Dieu, ça va m'arriver », mais comme « qu'est-ce qui peut la pousser ?» à me donner ça, qu'est-ce qu'elle veut en échange ?
Ouais, exactement.
Et en échange, elle veut énormément. Et moi, je me méfierais même de la, entre guillemets, transition violente du jour où il y aura l'enfant. C'est-à-dire que la souplesse que tu as cru pouvoir lui faire acquérir quand tu lui as dit, quand tu m'as écrit plutôt, que tu avais réussi à l'infléchir un petit peu sur son côté radin, à lui faire envisager l'objet comme étant plutôt aussi beau et pas uniquement fonctionnel, à lui faire lire des revues de je ne sais quoi, etc. Je ne rêve pas, tu as bien évoqué ça.
Oui.
Eh bien, je crois pouvoir faire le pari que ceci, ça fait partie des avenants au contrat. Ça fait partie de ce qu'elle te donne, de ce qu'elle t'offre, en échange de ce qu'elle va te faire manger pendant les 20 ans à venir. Parce qu'une fois que vous aurez le plus gros des élastiques qui vous lie, qui est le cordon ombilical, qui est l'enfant, elle n'aura plus aucun intérêt, elle n'aura plus aucun intérêt à cette flexibilité, à cette espèce de changement qu'elle opère pour, entre guillemets, se comporter un peu comme une femme moderne. Et c'est ça qui doit te... C'est ça qui doit te... Qui doit te, te... Non pas t'alerter, mais en tout cas dont tu dois être extrêmement, extrêmement conscient. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres éléments qui t'intriguent ou qui te paraissent bizarres ou donc qui te reviennent à l'esprit maintenant avec du recul ?
Bon, bah après, il y a beaucoup de petites phrases qui font sens, beaucoup de...
Dis-moi si t'en as deux, trois qui te viennent à l'esprit, vas-y, balance-les.
Que ça me revienne.
Ou des moments.
Il y a eu la discussion avec les enfants sur le fait que il faut rester ensemble le temps de pouvoir les élever. Bon, ça c'est une chose. Trop de mémoire.
C'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. Si tu veux, pour résumer, tous les critères permettant de juger un niveau d'intérêt habituellement sont invalides dans ton cas. C'est-à-dire que normalement, le juge, par exemple, aux petits cadeaux, aux petites attentions, etc., dans ton cas, c'est invalide. Cadeau, attention, et d'ailleurs, le meilleur des cadeaux a été quand même l'offrande qu'elle te fait, qui est de dire « tu pourras même me tromper, je dirai rien », ce qui est quand même, ce qui est quand même énormissime. C'est-à-dire que c'est un cadeau symbolique énorme. La question, c'est quel est le prix que tu vas payer derrière pour ça ? En gros, t'es devant une banque qui n'a aucun scrupule et aucune morale, et t'es devant une banque qui te fait, qui t'offre des propositions de crédit et d'argent dont t'as pas besoin. Tu sais ces banques à morale qui disent à des pauvres gens vous avez une réserve d'argent de 10, 15, 20, 25 000 euros disponible à tout moment.
Ouais.
Et prenez-la, 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 vous inquiétez pas, vous commencez à rembourser l'année prochaine. Et puis, de toute façon, c'est avec un taux super faible de blablabla, plus tant, plus tant, plus tant, soit un taux effectif global de 25%.
Ouais, la métaphore est bien trouvée.
Et ben, t'as ça, en fait. T'as une banque qui est en train de t'offrir de l'argent pour faire un prêt. Sauf que t'as pas demandé l'argent. L'argent, c'est de la liberté, c'est du plaisir sexuel, c'est du désir sexuel. T'as une banque qui est en train de te dire, tu veux pas aller te taper une meuf là. Sauf que si tu le fais, derrière, t'es mort. Parce que tu n'as pas ce cadeau, ce don qui est un faux don, en échange de rien. Tu as ce don en échange de la certitude que tous tes futurs gains lui appartiendront. Tous tes futurs gains lui appartiendront à moitié, Sébastien. Plus la pension des enfants, etc. Tu es un cheval de course. Tu es là pour gagner des courses et rapporter de l'argent. Et si tu ne le gagnes pas... Et un cheval de course qui ne gagne pas de course, à un moment...
On pique.
À un moment, on le garde pas, quoi. C'est qu'au début, on le cravache. Et s'il gagne toujours pas de course, on ne l'entretient pas. Parce que ça coûte trop cher. Donc, ce qui doit t'inquiéter, c'est la pression qu'elle te met sur les épaules. Et ce qui doit te rassurer, c'est le risque d'infidélité qui est nul. En plus de ça, une petite remarque qui sera utile, pas seulement à toi, mais à d'autres, pour faire cette remarque, j'ai besoin que tu nous dises en deux mots comment se passe l'aspect sexuel, ça ressemble à quoi ? Sans nous faire dans les grands détails avec une loupe, mais... Comment tu le qualifierais ?
On a des rapports fréquents. Elle atteint l'orgasme extrêmement facilement.
Ça, c'est très important. Il faut que vous compreniez, et CF, l'amant séminaire, l'amant idéal, qui va évidemment beaucoup plus loin que ça, mais c'est des petites portes d'ouverture vers les séminaires qui pourraient vous intéresser, qui pourraient vous faire avancer. Que une fille qui... Enfin, comment dire ? Quelles sont les trois raisons qui peuvent pousser à l'infidélité ? C'est pas de plaisir, pas de désir ou pas d'ambition. C'est-à-dire un homme qui vous désire plus, un homme qui vous donne pas de plaisir ou un homme qui a pas d'ambition. Après, il y a d'autres causes, mais qui peuvent être infimes. La capacité d'une femme à aller très vite au désir toute seule, enfin toute seule, pas avec ses mains, mais... on va dire, à se connaître et à connaître assez bien ses points de stimuli pour que dans la façon dont elle s'accouple avec toi, et ben elle soit stimulée très vite et qu'elle arrive très vite à l'orgasme, l'orgasme étant le pic que tu ne peux pas dépasser, tu peux en répéter plusieurs, mais tu ne peux pas dépasser l'orgasme au niveau du plaisir, c'est plutôt, paradoxalement, le signe d'une espèce de libido débridée, comme on pourrait le croire, à tort, c'est en réalité une des meilleures garanties de ne pas être quittée. Parce qu'elle n'a aucune raison de le faire. Puisque dans le fait d'aller voir ailleurs, chez une femme, il y a aussi l'espoir non dit de trouver un orgasme qu'on n'a jamais trouvé.
Ouais.
Donc du moment que la conformation de son corps et de son désir fait qu'elle est très facile à amener à ce pic absolu et indépassable, en 5 minutes, tu me confirmes que ça peut durer quoi ?
Je
même pas 5 minutes. Quel intérêt elle a à justement passer à la mise en œuvre de ces menaces d'infidélité? Aucun. Par contre, elle en aura si tu ne respectes pas l'autre mamelle qui est l'absence d'ambition. C'est-à-dire que si à un moment les ambitions sont déçues, pour paraphraser un roman de Moravia, très mauvais d'ailleurs, le premier ou le deuxième, là par contre elle aura une raison. Et là elle va te faire du mal. Mais en tout cas, c'est une des clés permettant de comprendre souvent une des mauvaises interprétations de la connexion sexuelle. Où ça booste l'ego et on y voit une forme de libido et on y voit une forme de caractère chez la fille qui la porte au plaisir, etc. Non, en réalité, c'est paradoxalement assez safe et assez sécurisant, puisque ça veut dire qu'en gros, elle n'est pas dans une course à l'homme comme dans une course au plaisir. Parce que le plaisir, elle l'a avec n'importe quel mec. C'est-à-dire que n'importe quel mec qui la sécurise par les mots, par les actions, et qui effectue le devoir conjugal de façon bête et méchante avec trois caresses et deux pénétrations, suffisent. Donc c'est sécurisant pour toi de ce côté-là. Par contre, tu as la pression d'un cheval de course. Est-ce que tu es capable de l'assumer? Et est-ce que tu as envie de l'assumer? C'est-à-dire que est-ce que cette personne dont tu n'es fondamentalement pas amoureux, est-ce que le don qu'elle fait pour toi, est-ce que cette soumission, cette abnégation, tu as bien dit toi-même qu'elle avait craqué dans la négo pour l'appartement?
Oui.
Donc elle a accepté des inconvénients en termes de temps de transport, etc. Est-ce que cette soumission te satisfait? Est-ce que tu trouves que le contrat est fair? Est-ce que tu trouves que le contrat est équilibré? Sachant que tu vas donner beaucoup. Est-ce qu'en échange, cette soumission te suffit?
À ça, il faut que j'y réfléchisse. C'est très difficile comme question.
Tu as une personne dont, si tu fais la liste des qualités propres, qui sont quand même pas folichonnes, c'est un euphémisme. Par contre, tu es une personne qui est ton manager, ton coach et ton principal supporter.
Ouais.
Et ce pari, cette union est complètement à l'ancienne, complètement traditionnelle, qui n'est pas du tout étrangère à la religion musulmane qui est la sienne, mais que je rassure les auditeurs qui pourraient tout à coup tiquer ou me prendre pour ce que je ne suis pas, qu'on trouverait chez toutes les autres religions traditionnelles, on pourrait trouver la même chose chez des cathos extrêmement pratiquants, ou chez des protestants, ou peu importe le lieu de culte tant qu'on a le culte, peu importe le flacon tant qu'on est l'ivresse. Est-ce que cette dévotion va compenser le désir et l'attraction? Est-ce que cette soumission va compenser l'amour? Est-ce que ces calculs vont compenser l'entente? Et surtout, est-ce que le contrat va pas changer très vite? Tu es dans un contrat pour l'instant qui te satisfait relativement, elle fait preuve d'une relative flexibilité, qu'en sera-t-il? Quand vous aurez le plus gros des investissements, le seul qui ne peut pas se rendre ou se vendre, puisqu'un appartement ça peut se rendre et se vendre, des meubles aussi, mais quand ça sera un enfant. Voilà les éléments auxquels tu dois réfléchir, voilà les éléments qui me sont venus à la suite d'une part du mail que tu m'as écrit très détaillé, d'autre part de la conversation qu'on a eue ensemble précédemment, dont j'ai malheureusement foiré l'enregistrement en confondant pomme S et pomme Z. En tout cas voilà, je pense avoir bien résumé et reformulé une deuxième fois les éléments. Est-ce que par hasard, pour conclure, une des phrases qu'elle t'aurait évoquées te serait revenue comme ça en écho à ce qu'on vient de se dire?
Oh mon pauvre.
Mon pauvre,
ça doit être une des phrases, ouais.
Mon pauvre qui? Mon pauvre toi?
Ah oui.
Alors ça vient, c'est intriguant, ça, c'est venu à quel moment, dans quelles circonstances?
C'est out of the blue aussi, comme ça. De temps en temps, ça lui prend.
Mon pauvre.
Tu sais pas vers quoi tu t'engages. Mon pauvre.
Ouh, c'est vrai ça, ou tu dis ça pour me faire plaisir?
Non, c'est vrai.
Tu te rends compte que dans ce mon pauvre, dans ce à quoi, dans ce tu ne sais pas à quoi tu t'engages, il y a tout ce que je viens de te dire pendant une demi-heure là.
Ouais, je sais, c'est pour ça que ça me revient maintenant.
Tu es dans la position extrêmement flatteuse d'un boxeur, d'un cheval.
Flatteuse, flatteuse, je suis pas sûr.
Bah, flatteuse de l'extérieur.
Ouais.
Mais après, c'est comme les gens qui envient les footballeurs, les sportifs, les boxeurs, etc. Et qui ne comprennent pas, si tu veux, la pression qui est sur leurs épaules. C'est-à-dire que tu peux envier Cristiano Ronaldo parce qu'il peut se taper toutes les meufs du monde, mais il faut bien avoir conscience que ce mec-là, s'il sous-performe, s'il se blesse, il paye le prix. Hein.
Ouais.
Et il paye un prix infini, que tu peux même pas imaginer. Hein. Donc, moi, si tu veux mon avis, je trouve le prix très cher payé.
Ouais.
Tu me l'as pas demandé, mais je te le donne quand même. Pour une personne qui simplement te convient et te complète, mais qui ne représente pas dans ses facultés, dans ses qualités propres, quelque chose de rare et de dur à trouver, je trouve que le prix est très très cher payé. Et attention, au moment où la facture va arriver, la facture n'arrive pas maintenant. Maintenant, tu as la flexibilité. La facture arrivera aux enfants.
Ouais.
Parce que l'ambition qu'elle a sur toi, elle l'aura sur les enfants. Donc les enfants finiront pas chauffeurs de bus.
Mmh.
Les enfants, il faudra qu'ils fassent comme toi. Ce qui sous-entend des études longues et chères. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, je vois.
Avec une femme qui va, je te mets mon petit billet là-dessus, qui va perdre très très rapidement le peu de pouvoir d'attraction qu'elle avait encore sur toi. Et qui va s'en foutre complètement. Et qui ne s'apprête, puisque le désir pour une femme est généralement proportionnel à son degré d'apprêtement et pas à une beauté, on va dire, naturelle. Le naturel étant, paradoxalement, assez peu attirant, et très, le désir étant aiguillonné par l'accessoire, par le superficiel, par l'apprêtement. Tu as un degré d'apprêtement qui, à la base, est faible, qu'elle simule un peu pour toi, mais qui, à mon avis, n'est pas extrême.
En effet.
C'est-à-dire, en gros, c'est voilà, minimum de maquillage, minimum d'investissement en beauté, en vêtements, en soins, etc. Et cet investissement qui est faible, il va tomber à zéro très vite. Je ne dis pas que tu auras une mama, mais c'est pas loin. Je me gourre complètement ou ça te paraît cohérent ?
Ça me paraît cohérent.
Voilà. Donc, et à ce moment-là, sa rapidité à arriver à l'orgasme, t'en auras plus rien à foutre.
Ouais.
Ça sera complètement des souvenirs du passé, voilà. Donc, est-ce que t'as bien pesé tout ça ?
Eh ben, je vais le faire.
C'est une personne qui joue avec son arme. Elle n'a pas l'arme de la beauté, elle n'a pas l'arme d'un style de vie particulièrement intéressant ou attirant. Je sais pas si tu as mentionné son métier dans le mail ou si tu me l'as mentionné à l'oral, mais bon, elle a un peu un job de garçon, tu vois.
Ouais.
Elle a un peu un job de garçon, routinier, avec des horaires fixes de bureau, des ambitions professionnelles qui sont celles du monde libéral, c'est-à-dire triangulaire, pyramidal, où elle va monter quelques échelons puis elle va s'arrêter là. Elle a pas l'âme d'entreprise. Donc elle n'a rien à vendre. Elle n'a à vendre que sa soumission. Mais il faut toujours se demander, comme quand on dit un tel est libre, libre de quoi par rapport à quoi, quand un ou une telle se soumet, pourquoi ? Le soumis né est très rare, surtout la soumise. La soumise veut un truc en échange. Et là, on voit tout ce qu'elle veut en échange, enfin moi je le vois en tout cas. Est-ce que ça va peser assez lourd pour ce que tu vas en retirer toi ? N'oublie pas que tu es le pur sang, hein. C'est-à-dire que c'est au sportif de choisir son manager et pas au manager de choisir son sportif. Or là, tu as été choisi.
En effet, ouais.
Donc c'est un peu comme si... Ibrahimovic avait été choisi par un Gus qui lui a dit maintenant je suis ton manager, je vais t'encourager, te supporter, mais t'es à moi, et que le mec il se rebelle pas, quoi. C'est pas très normal. À un moment, c'est au plus à celui qui a le plus de potentiel, à celui qui a le plus d'ambition, à celui qui ira le plus loin dans sa vie, quel que soit le critère qu'on met et la façon dont on juge l'avancée, d'être exigeant par rapport à l'autre. Or là, il y a une incohérence. C'est qu'elle va te prendre 20 ans de ta vie, mais elle t'a choisi. Elle se soumet, mais c'est une soumission de façade. C'est une soumission matérielle et factuelle.
Ouais.
Qu'est-ce que tu en tires en échange, à part le fait qu'elle te supporte et qu'elle te complète. Enfin, même si moi je sais ce que veut dire compléter, parce qu'on l'a évoqué dans notre conversation précédente, qu'on appellera désormais la conversation perdue. Où tu m'as dit qu'elle avait un trait de sa personnalité, de son caractère, que tu n'as absolument pas et qu'elle t'apporte au niveau relations humaines, etc. T'es conscient du prix que tu payes ce trait de caractère-là?
Ouais, c'est cher payé.
Et est-ce que c'est ta première longue histoire?
J'en avais eu une autre avant, pas aussi longue. Et... Allô?
Oui.
Ouais, c'est bon. Ok. Et là aussi, c'était... Bah, là, pour le coup, c'était avec quelqu'un du milieu artistique et clairement, c'était... j'étais ingénieur et donc futur mécène.
Oui,
donc, ça n'a pas duré très longtemps.
Tu serais son mécène.
Ouais.
Comme d'hab. L'artiste avec l'industriel.
Ouais.
Où t'en as un qui bosse et qui fait tous les trucs chiants et l'autre qui jouit et cette jouissance nourrit soi-disant sa créativité et la dispense de subir les affres du salariat, du stress, du chiffre d'affaires pour les entrepreneurs, etc. Au nom d'une créativité divine.
Ouais.
Oui, on connaît le truc. Ouais. Eh bien, écoute, voilà, c'est ton destin, c'est ton caractère, c'est ta formation, c'est ce que tu es. Après, à toi d'en tirer l'échange le plus honorable et le plus rétribuant pour les deux. Je n'ai pas l'impression que celui-ci soit très rétribuant, et surtout, j'ai l'impression que, avant notre conversation, tu t'inquiétais au mauvais endroit. Tu t'inquiétais pour des questions d'infidélité qui n'ont pas lieu d'être. Cette fille n'a aucun intérêt à te tromper pour l'instant, aucun. Elle a son pic de plaisir physique qui s'appelle l'orgasme avec toi. Elle a son pic d'ambition et son pic de sécurité. Par contre, ambition déçue, mauvais projet, etc. Là, tu vas le payer cher.
Ouais.
Est-ce que l'échange est équilibré? Est-ce qu'elle met à droite de la balance ce que toi tu mets à gauche? Est-ce que tu peux trouver un échange plus équilibré? Telles sont les questions qui doivent t'occuper et certainement pas le doute sur sa fidélité réelle ou pas. Ceci est hors de la raquette. Ce sont des leurres, des diversions. Ce sont des soupapes, ce sont des avenants au contrat qu'elle t'offre là. Avenants qui doivent te mettre la puce à l'oreille et qui en tout cas confirment mon hypothèse qu'elle ne t'aime pas. Tu es un pari. Enfin, elle t'aime comme Don King aimait Mike Tyson parce qu'il lui rapportait de l'argent. Et quand Mike Tyson est devenu inutile, Don King l'a baisé comme tous les autres boxeurs. C'est là où la société traditionnelle rejoint paradoxalement les nouvelles pratiques de style escort girl, etc.
Oui, il y a un parallèle en effet.
C'est que les deux conduisent à une espèce de boost d'ego phénoménal pour le mec qui se sent sexué, qui se sent encouragé, qui se sent à la limite bandé comme un cheval de course. Et les deux donnent lieu dans les faits à une espèce de soumission de façade. Genre, je fais ce que je veux de cette personne, elle m'appartient, c'est quasiment un Playmobil, je peux la prendre dans tous les sens. En réalité, les termes du contrat tacite écrit derrière sont très lourds. Et dès qu'il y aura l'enfant, et ce qui, à mon avis, ce qu'elle est en train de faire, enfin ce que son corps est en train d'essayer de faire, même si son esprit lui dit qu'elle est trop jeune, son corps est en train d'essayer de la faire tomber enceinte, là, tu vas avoir des changements, tu vas halluciner. Négociation, tu vas tout perdre. Toutes les négociations que tu crois avoir gagnées, tu les perdras. Le lieu de vie, l'apprêtement, le beau, le machin, tu vas tout perdre.
Ouais, j'en ai peur.
Tu vas tout perdre. Elle n'aura plus aucun intérêt à donner cette flexibilité. Elle aura un engagement trop fort avec toi. Voilà.
Ouais. Merci, merci Stéphane pour ton analyse.
Bah c'est moi qui te remercie d'avoir accepté d'en reparler après que ma malencontreuse confusion et la disparition du fichier précédent, donc qui va me gâcher pas mal la journée, mais c'est pas grave, on a réévoqué les points, je t'ai refait l'analyse et voilà. Donc t'as une dernière question, t'as un dernier truc qui te revient tant qu'on y est, ou on clôt comme ça?
On peut clore comme ça.
Bon, et ben merci à toi, bon choix, et pose-toi donc les nouvelles bonnes questions. Oublie les questions avec lesquelles tu es venu, ce ne sont pas les bonnes. Tu n'as rien à craindre de ce côté-là, tu as beaucoup à craindre d'un autre côté.
Ouais. Grâce à toi, maintenant, je le sais. Merci.
Merci à toi, et j'espère que ça aura donc intéressé les auditeurs et qu'ils poseront surtout leurs questions en commentaire ci-dessous, qu'ils en débattront. À très bientôt à tous, merci, au revoir.